À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Édition numéro 2. Nous sommes le 15 octobre 2018. Alors, comme à l'habitude, cette semaine, il sera question de ce qui se passe un peu partout au niveau du Rocket de Laval, de la Ligue américaine, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a des joueurs qui ont atteint des plateaux importants cette semaine. On aura une entrevue avec l'entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Martin Bernard, que j'ai rencontré hier à Rimouski. On va également s'entretenir en fin d'émission avec l'entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3, Mathieu Turcotte. Les Chevaliers de Lévis, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, qui ont amorcé la saison avec 14 victoires de suite. Ils ne sont plus qu'à 2 du record là, pour le meilleur début de saison de l'histoire de la Ligue Midget 3. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant. C'était les débuts du Rocket à Laval au cours du week-end, vendredi et samedi. D'ailleurs, RDS vous a présenté le premier match vendredi contre les Devils de Binghamton, une victoire de 5-2. Samedi, ça a été un revers de 2-1, malgré une bonne performance là, du Rocket, plus de 40 tirs au but. Mais il y a un gardien là, qui ne voulait rien savoir du côté de Binghamton, Mackenzie Blackwood, qui a été très, très solide. Donc, le Rocket se sort de ce premier week-end à domicile avec une victoire et une défaite. Fiche globale de l'équipe après 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Et là, il y a 3 matchs à domicile qui pointent cette semaine. Mercredi, le Wolfpack de Hartford sera le visiteur. Et vendredi et samedi, ce sera au tour des Thunderbirds de Springfield de se rendre à la Place Belle de Laval. Alors, question de bien commencer l'émission. On a décidé de vous présenter aujourd'hui un des joueurs du Rocket de Laval, un des nombreux nouveaux joueurs du Rocket de Laval. C'est un Québécois, Alex Belzile, qu'on rejoint à l'instant même à la sortie de l'entraînement du Rocket. Salut Alex, ça va bien?
Salut Stéphane, oui, ça va très bien. Et toi?
Ben oui, ça va bien. Écoute, Alex, premièrement, j'ai envie de te demander comment ça a été pour toi ce premier week-end officiel là, à la Place Belle de Laval. C'est un amphithéâtre que tu ne connaissais pas, évidemment, là, parce que tu jouais dans l'Association de l'Ouest. Comment tu peux comparer peut-être l'expérience là, de l'amphithéâtre à Laval versus ce que tu connaissais de la Ligue américaine?
Ah, premièrement, lors de la partie d'ouverture, c'était vraiment une très belle expérience. J'avais pas eu la chance de jouer devant des proches, devant des amis, pendant presque toute ma carrière professionnelle. Puis avoir la chance d'avoir une foule comme ça là, vendredi, ça a été vraiment, vraiment une très, très belle expérience.
Tu en avais entendu parler, j'ai l'impression, à Laval l'an passé, même si l'équipe n'a pas gagné beaucoup, je pense que c'est forgé quand même une belle réputation là, au niveau des joueurs. À peu près tout le monde qui vient en visite à la Place Belle là, sont agréablement, et je dirais, sont choyés là, de pouvoir évoluer dans un amphithéâtre comme celui-là au niveau de la Ligue américaine.
Oui, exactement, c'est certain. Là, j'avais pas eu la chance, mais j'ai des amis qui ont joué avec le Rocket. Puis aussi, en tant que Québécois, là, je suis quand même qu'est-ce qui se passe là avec le Canadien et le Rocket, même si j'étais sur la route les dernières années. Mais juste de voir la chambre en vrai, puis c'est souvent sur photo. Puis quand t'arrives en vrai, c'est bien plus grandiose que c'est sur photo. Donc non, on est vraiment, vraiment très bien traité, là. On est peut-être gâtés même.
Alex, parle-moi des deux matchs d'en fin de semaine. Comme je le disais en introduction d'émission, une victoire convaincante quand même, 5-2 vendredi soir, mais une défaite de 2-1 samedi. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier week-end à domicile?
Je pense qu'on a démontré qu'on allait être une équipe qui allait être très dure à jouer, très intense. Puis souvent, notre but, nous autres, en tant qu'équipe, c'est de donner le moins de temps possible à l'adversaire, d'être vraiment rapide sur les rondelles libres puis en zone défensive. Puis je pense que samedi, les buts ont rentré. Vendredi, les buts ont rentré. Puis samedi, on a encore joué un très, très bon match. On a accordé très peu de chances à marquer. Mais je pense que si on continue de jouer dans des façons de même, si on continue de jouer des parties sur un échantillon de 4 parties, des fois, c'est bon d'échapper une ou deux. Mais si on joue, par exemple, 10 parties solides comme celle de samedi, là, il devrait avoir des très, très bons résultats.
Est-ce que c'est important, Alex? L'an passé, je le disais aussi en début, ça n'a pas été facile pour le Rocket, puis je sais que tu n'étais pas là, puis la plupart des joueurs de l'équipe n'étaient pas là. Mais on n'a pas réussi justement à, je dirais, à s'approprier l'amphithéâtre, à faire en sorte que les équipes qui viennent jouer à Laval, bien, que ce soit difficile pour eux, pour ces équipes-là. On a gagné que 10 matchs à domicile l'an dernier. Est-ce que ça fait partie du message de l'entraîneur-chef et du personnel d'entraîneur là, depuis le début de la saison?
Ben moi je pense que oui personnellement, puis c'est un petit peu notre identité en tant qu'équipe qu'on veut avoir, surtout tu sais à la maison, c'est notre maison, puis on veut vraiment que rendre la vie très difficile aux adversaires qui viennent jouer, puis tu sais comme mettons après la partie du vendredi, on était très intense, on a un gros début de match, puis c'est ça notre plan un petit peu là dès que la rondelle est droppée, de suite mettre de la pression puis être vraiment vraiment très intense sur l'autre équipe, puis espérer là, que là, avec les unités spéciales, puis on va commencer à marquer plus de buts. Là.
On s'entretient avec Alex Belzile du Rocket de Laval, numéro 22. Vendredi soir, vous avez marqué des buts dans toutes les phases de jeu. Avantages numériques, désavantages numériques, à force égale. Je pense que la façon dont la partie s'est déroulée vendredi, ça vous a mis en confiance, je pense, pour le reste du match. La séquence en première période où il y a eu des buts là, dans chacune de ces phases-là, ça a pavé la voie à cette victoire-là.
Oui, exactement. On avait eu un bon début de match. On était très intense. Là, je pense dans les 5-6 premières minutes, on mettait beaucoup de rondelles à la fin de territoire, puis on mettait de la pression sur les joueurs de Binghamton. Je pense que, puis à un moment donné, quand tu commences, puis t'en mets une dedans en partant, ben, ça fait la confiance monte. Puis, soudainement, ben, on vient plus confiant dans nos jeux, plus confiant en tant qu'équipe. Puis, on a eu un gros but en désavantage numérique de Spelinska. Donc, ça nous a donné confiance aussi. Puis après ça, tranquillement, pas vite, on continue à jouer de la bonne façon. Puis normalement, il y a des résultats, des très bons résultats qui arrivent.
Au cours des dernières saisons, tu as évolué avec le Rampage de San Antonio, notamment dirigé, entre autres, par Éric Veilleux au cours des dernières années. Si tu me comparais peut-être Éric Veilleux à Joël Bouchard, maintenant ton entraîneur-chef à Laval, bon, ce sont deux Québécois, mais je pense que c'est pas tout à fait le même style. Si tu me parlais un peu de ce changement-là pour toi, là?
Oui, dans le fond, c'est deux entraîneurs francophones, mais je pense pas qu'ils ont la même façon de penser. Joël, moi, je connaissais pas personnellement. Dans le fond, quand j'ai décidé de signer à Laval, il m'a rencontré, puis on s'est parlé un petit peu, puis Joël, il est vraiment un entraîneur, je dirais, de nouvelle génération, là, qui, son message, il passe très bien facilement, puis c'est noir, ou c'est blanc, puis tu sais, il y a vraiment pas de zone grise, puis je pense qu'aussi, moi, Joël, c'est un excellent communicateur, là, c'est de ses plus grandes qualités, puis le fait d'embarquer tout le monde dans l'équipe, les 20 joueurs, ben souvent, quand tu joues en équipe, puis il y a personne qui comprend pas ou qui pousse pas dans la même direction, ben quand tu as toute l'équipe ensemble, ben, ça va vraiment, là, il y a des bonnes choses qui arrivent.
Alex, tu t'es promené beaucoup au cours des dernières années, Gwinnett, Alaska, Idaho, Fort Wayne, je parlais de San Antonio, Hamilton. Tu es un gars qui est arrivé sur le tard dans la Ligue junior majeure du Québec aussi à l'époque. Est-ce que pour toi, le rendu à 27 ans, bon, tu as signé avec Laval, est-ce qu'on rêve encore de la Ligue nationale? Est-ce qu'on croit encore que c'est possible? Ou si au contraire, tu te dis, ben, moi, je vais m'établir à Laval puis je vais essayer de connaître une bonne saison dans la Ligue américaine. Comment tu vois ça, le rendu? Je veux pas dire que tu es vieux, mais il y en a des plus jeunes que toi dans le Rocket, on va se le dire. Là. Comment tu vois ça présentement?
Ouais, ben, je comprends très bien ta question, là. C'est pas le premier qui me dit ça, mais moi, mon opinion là-dessus, c'est, je pense que, t'es un âge, c'est juste un chiffre. Moi, avec mon cheminement que j'ai eu, je suis arrivé junior majeur très, très tard, puis même avant l'âge de 20 ans, quand je jouais junior, je n'en ai jamais entraîné dans ma vie. Donc, tu sais, mon corps, j'ai 27 ans, mais, de nos jours, les jeunes commencent à s'entraîner à peu près à 14, 15 ans. Donc, rendu à 25 ans, ils ont déjà 10 ans d'entraînement de fait, puis souvent, ton corps, tu sais, il plafonne, puis, souvent, on voit ça chez des jeunes, ils sont bons à 21, 22, 23, puis après, ils plafonnent souvent. Donc, moi, mon opinion là-dessus, c'est que j'arrive dans mon apogée. Ça fait à peu près, là, ça va faire 7 ans que je commence ma carrière professionnelle, que j'ai commencé à m'entraîner. Puis de plus en plus, à chaque saison, je m'améliore, je plafonne pas. Puis ma confiance est encore là. Puis moi, je crois à mon processus, c'est tranquillement, pas vite, que je m'améliore à chaque année, puis je pense que dans les prochaines années, ça devrait être mes meilleurs.
Ben, si on regarde ta feuille de route, justement, c'était la première fois l'an passé là, que tu n'allais pas du tout dans la ECHL, comme on l'appelle maintenant, la Coast. Tu as vraiment passé la saison complète dans la Ligue américaine. Alors pour toi, j'imagine que ça a été un pas en avant aussi. Là.
Oui, exactement. L'année dernière, là, ça a été une très, très grosse saison. Là. Aussi, tout au niveau personnel, que t'sais, la confiance aussi, parce que souvent, là, dans le monde du hockey professionnel, il y a beaucoup de business, puis c'est un coup que tu comprends ça, ben Tu sais, des fois, au début de l'année, il y a beaucoup de joueurs, puis il y a des jeunes qui passent. Puis, tu sais, au lieu de te poser des questions, moi, l'année passée, je me focusais vraiment juste que les games que je jouais sur la glace, il fallait que je fasse un statement que, comme c'était fini, la East Coast, puis je suis un joueur de Ligue américaine. Puis, à partir d'après les fêtes, l'an passé, j'ai commencé à avoir du temps de glace de qualité, de l'avantage numérique que j'avais jamais vraiment eu avant dans la Ligue américaine. Puis, j'ai sauté sur l'occasion pour, comme prouver, puis essayer de faire écartiller les yeux un petit peu que finalement, j'avais ma place dans la Ligue américaine, là, puis je pouvais dominer des parties, là.
On s'entretient avec Alex Belzile du Rocket de Laval. J'ai envie de t'en envoyer une dernière. C'est comment jouer au hockey en Alaska, Alex?
En Alaska, ça a été une très belle expérience. Ouais. Quand je suis arrivé au mois de mars, donc j'ai pas eu la noirceur de l'hiver parce qu'on sait que le soleil n'est pas très présent durant l'hiver en Alaska. Mais pour jouer, nous autres, on avait remporté la Coupe en plus cette année-là. Ouais. Donc ça a vraiment été une belle expérience. C'était ma deuxième année professionnelle. Je sortais d'Hamilton, puis j'avais une blessure, puis j'ai recommencé mon année. Mais peu importe la ligue, là, quand tu remportes un championnat, ben ça crée des liens, puis c'est toujours toujours positif d'avoir une étiquette de gagnant.
Les voyages sont pas faciles, je pense, non plus pour dans la East Coast, Alaska, là, les villes sont pas proches, là.
Non, exactement. On avait 3h30 d'avion à faire jusqu'à Seattle à toutes les fois, puis après on avait Seattle jusqu'à destination. En avion aussi. On ne peut pas faire d'autobus en Alaska. C'était un petit peu loin.
Écoute, Alex, merci beaucoup pour cet entretien. C'est très agréable de te parler. Bonne chance pour cette semaine. 3 matchs, Hartford et 2 fois Springfield. Vendredi, on sera de nouveau là, RDS, pour présenter le match. Bonne continuité, Alex.
Merci beaucoup, Stéphane.
Voilà, merci beaucoup. Donc, Alex Belzile du Rocket de Laval, un des nombreux nouveaux joueurs du Rocket cette année. Alex, qui, comme je le disais, fait son chemin, est arrivé à 18 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. N'avait pas nécessairement suivi là, le pattern habituel, si vous me permettez l'expression, mais a réussi à l'âge de 20 ans à être en mesure de mettre des statistiques intéressantes et d'obtenir une chance au niveau professionnel. Et comme il le mentionnait lui-même, il en est maintenant à sa 7e saison professionnelle. Il s'est promené beaucoup, surtout dans la East Coast. Mais là, l'an passé, dans la Ligue américaine, il a passé la saison au complet sous les ordres d'Éric Veilleux avec le Rampage de San Antonio. Alors, pour Alex Belzile, ça a été un accomplissement quand même de pouvoir s'établir comme ça dans la Ligue américaine. On verra le rôle qu'il aura avec le Rocket de Laval cette année. C'est sûr qu'il est un des plus vieux joueurs là, de la formation à 27 ans. Fait partie des vétérans, mais à 92 points à sa dernière année junior avec l'Océanique de Rimouski en 2011-2012. Alors, c'est quand même des chiffres intéressants là, pour Belzile, qui est d'abord et avant tout, je dirais, un fabricant de jeu plus qu'un marqueur. Alors, pour poursuivre avec le Rocket de Laval, bien, comme je le mentionnais, une fiche de 2 victoires, 2 défaites depuis le début de la présente saison. Il y a déjà eu un rappel du côté de Laval. On a rappelé Charlie Lindgren pour le match de samedi en raison du virus là, de Carey Price. Alors, il a agi, Lindgren, comme adjoint de Antti Niemi lors du match de samedi contre les Penguins de Pittsburgh. McNevin n'a pas été mauvais non plus dans le match de samedi. Lui qui a eu son premier départ, il a cédé 2 fois. Mais comme je le disais, le Mackenzie Blackwood du côté des Devils de Binghamton a été très solide. Byron Fraze connaît un bon début de saison. 4 points en 4 matchs, un différentiel de +5. Moi, j'ai adoré vendredi soir la tenue du défenseur Brett Kulak là, qu'on est allé chercher dans cette transaction avec les Flames de Calgary. On a cédé Matt Tormina et Rinat Valiev pour faire l'acquisition de ce défenseur qui a passé toute la saison dans la Ligue nationale l'an dernier. Bruno Gervais et moi, on l'a choisi là, parmi les 3 étoiles du match vendredi. Il a été solide. Alors, il a 1 but et 1 passe en 4 matchs depuis le début de la saison. Le jeune Cale Fleury a connu un bon match aussi. Alors, ça augure bien pour le Rocket de Laval qui, comme je le disais, aura 3 matchs. Mercredi, on reçoit le club école des Rangers de New York, le Wolfpack de Hartford. Et vendredi et samedi, ce sera le club école des Panthers de la Floride qui sera en ville, soit les Thunderbirds de Springfield. Vendredi, on sera là, toute l'équipe de RDS, pour présenter le match du Rocket en direct. On passe maintenant à ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lorsqu'on jette un coup d'œil au classement général, vous apercevez les Huskies de Rouyn-Noranda qui sont bien installés là, au premier rang du classement général. Ils ont gagné leurs 8 derniers matchs, 9 victoires et une défaite depuis le début de la saison pour les Huskies. Ça va très bien pour l'entraîneur-chef Mario Pouliot, qui, rappelons-le, a succédé à Gilles Bouchard du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. Bouchard, qui lui s'est amené comme adjoint maintenant avec Syracuse dans la Ligue américaine. Alors, Pouliot a laissé le titan d'Acadie Batters, avec lequel il a gagné la Coupe Memorial en mai dernier, pour se joindre aux Huskies. Et là, c'est 9 victoires, une défaite pour Pouliot et les Huskies en ce début de saison. Et peut-être souligner, c'est important de le dire, samedi, le gardien Samuel Harvey, âgé de 20 ans, a signé la 100e victoire de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, devenant ainsi le 14e gardien de l'histoire à atteindre le plateau des 100 victoires en carrière. Harvey, qui, rappelons-le, a participé au camp d'entraînement des Canadiens à titre de joueur invité. Harvey, qui n'a jamais été repêché, n'a pas signé de contrat professionnel, a participé au camp d'équipe Canada junior l'an dernier. Honnêtement, depuis un an et une dizaine de matchs, c'est le meilleur gardien dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce qu'une équipe sera tentée éventuellement de lui offrir un contrat? On verra bien. C'est sûr que ce n'est pas le plus gros gardien physiquement, mais honnêtement, il fait le travail avec les Huskies de Rouyn-Noranda depuis le début de la saison. L'an dernier, il a été le gardien maintenant la meilleure moyenne du circuit. Et cette année, il est à 1,99 après 7 matchs, taux d'efficacité de 930. Alors, il a repris là où il avait laissé Samuel Harvey. Plateau donc important, 100 victoires. Et de la façon dont les choses vont pour lui, les Huskies devraient connaître une bonne saison. Il pourra sûrement ajouter une 20, peut-être même 25 autres victoires cette année. Alors, quand sa carrière junior va se terminer, va peut-être se retrouver dans le top 5 de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec pour le plus grand nombre de victoires par un gardien de but. Alors, c'est quand même intéressant dans le cas de Samuel Harvey, un gardien originaire du Lac-Saint-Jean. Autre plateau cette semaine, l'entraîneur-chef Marc-André Dumont des Screaming Eagles du Cap-Breton a dirigé le 600e match de sa carrière. Lui, il devient le 18e entraîneur de l'histoire du circuit à atteindre le plateau des 600 matchs dirigés. Marc-André Dumont, qui avait fait ses débuts avait été adjoint avec les Olympiques de Gatineau, a fait ses débuts comme entraîneur-chef avec les Foreurs de Val-d'Or et là se retrouve au Cap-Breton depuis maintenant 6 ans. Il est aussi le directeur général de cette formation. Je vous parlais des Huskies de Rouyn-Noranda. Une autre équipe qui va bien également, c'est le Drakkar de Baie-Comeau. Bon, le voyage de cette semaine a peut-être été un petit peu moins facile pour le Drakkar. Une cuisante défaite jeudi à Drummondville de 7-1. Le Drakkar qui a toutefois rebondi le lendemain à Québec, l'emportant 6-2. Et moi, j'ai assisté au match hier à Rimouski entre le Drakkar et l'Océanique. L'Océanique l'a emporté par la marque de 3-1 face au Drakkar, à 4-1 plutôt, avec un but dans un filet désert. Mais sincèrement, le Drakkar méritait un meilleur sort, a dirigé plus de 40 tirs au but sur le filet de Colton Hellis de Rimouski qui a été solide. Résultat des courses, le Drakkar se retrouve avec une fiche de 8 victoires, 2 défaites et une défaite en bris d'égalité, ce qui constitue le meilleur début de saison de l'histoire de la franchise de la Côte-Nord, le Drakkar de Baie-Comeau qui a participé à 2 finales dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2013 et 2014, s'inclinant à chaque fois contre Halifax et contre Val-d'Or. Le Drakkar a une équipe solide cette année. Il a 2 Européens de 19 ans qui vont très bien. Yaroslav Alexeyev est parmi les meilleurs compteurs du circuit. Il a 10 buts, tout comme Simon Lafrance des Tigres de Victoriaville. Ce sont les deux meilleurs buteurs du circuit. Un autre joueur qui fait également très bien là, pour le Drakkar, c'est Ivan Tchekovic. L'autre Européen, il a 14 points. Nathan Légaré a 15 points déjà. Gabriel Fortier, probablement le meilleur patineur de la Ligue junior majeure du Québec, 14 points. Alors, une grosse attaque là, du côté du Drakkar de Baie-Comeau. Il faudra peut-être un peu raffermir la défensive et espérer un meilleur travail là, du côté des gardiens de but. Mais chose certaine, à l'attaque, il n'y a pas de problème. On a déjà marqué 47 buts en 11 matchs depuis le début de la saison. Le Drakkar est invaincu à domicile, 5 victoires et aucune défaite. Et en fin de semaine, le Drakkar va recevoir la visite pour un programme double des Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, les deux meilleures équipes au classement général qui vont s'affronter vendredi et samedi. C'est un des sujets que j'ai abordé avec l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, que j'ai rencontré hier après-midi au Colisée Sun Life à Rimouski, après que son équipe eut subi la défaite contre l'Océanique de Rimouski. On fait un peu le topo là, du début de saison du Drakkar et on parle de ces deux matchs qui s'en viennent en fin de semaine avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, entretien avec Martin Bernard.
Tu dois être satisfait, Martin, du début de saison de ton équipe. Quand tu regardes le classement après 11 matchs, quoi, deuxième au classement général, c'est satisfaisant comme départ?
Oui, je pense qu'on a un bon début. Et puis, j'aime l'ambiance de notre équipe. J'aime comment les gars se comportent, autant entre eux autres que sur la patinoire, à chaque jour, lorsqu'ils viennent soit pour un entraînement en glace ou un meeting. Les gars sont vraiment focus sur les choses qu'il y a à accomplir. Puis, je pense que ça se reflète dans notre façon de jouer.
L'an passé, on s'attendait à beaucoup de vous autres, mais ça n'a pas été nécessairement ce que vous pensiez. Tu m'avais dit peut-être que les attentes étaient trop hautes cette année. Là, c'est, si tu veux que l'équipe a un an de plus de maturité, ça fait une différence?
Ça fait une grosse différence. Dans le cycle du hockey junior, on sait quand tu développes, quand tu rentres un groupe de jeunes comme on a fait à 16 ans, tu en as pour 2 ans. Puis des fois, la deuxième année, ça va super bien. Des fois, ça va moins bien. Je pense que l'important là-dedans, c'est de prendre l'expérience puis s'en servir pour quand justement tu arrives à ta troisième année. Je regarde, il y a plusieurs situations qu'on vit depuis le début de l'année où est-ce que les années antérieures, on aurait paniqué à cause de la jeunesse. Maintenant, les gars sont plus capables de garder leur concentration en bonne place. Puis ça fait une grosse différence.
T'es la seule équipe dans la Ligue qui a 2 Européens, 19 ans. Depuis le début de la saison, ils vous en donnent beaucoup les deux.
Oui, exact. Je pense que c'est l'acquisition de Yaroslav avec nous aussi amène une dimension où est-ce que Ivan est heureux. Yaroslav est heureux. C'est deux bons amis. Ils se connaissent depuis longtemps. Puis je pense que quand tu as des joueurs heureux, ben ça se reflète aussi sur la patinoire.
Vous avez rentré des vétérans, notamment Samuel l'Italien qui a gagné la Coupe Memorial. C'est un gars qui apporte beaucoup, ça?
Énormément. C'est l'expérience qu'il apporte, le calme, le composure dans notre équipe. Et c'est important. On est capable d'utiliser dans beaucoup de situations, que ce soit dans le cercle des mises en jeu ou ce qui est excellent, que ce soit dans les missions défensives. Et puis même, je te dirais que la petite touche offensive qu'il est capable d'apporter aussi fait une grande différence. Donc, ça amène une stabilité et une profondeur à notre attaque.
Nathan Légaré, l'année passée, c'était un gars qu'on ne voyait pas nécessairement. Oui, c'était quand même un choix tôt dans le repêchage, mais cette année, il a vraiment sorti fort.
Oui, je pense qu'il a connu une bonne fin de saison. Sa progression, là, je te dirais, après les fêtes, il y a eu des bons playoffs aussi. Et puis, il a repris où ce qu'il a laissé. Puis, ce que j'aime dans son cas, c'est qu'il est vraiment concentré sur le quotidien, au jour le jour, puis il essaie de ne pas trop s'en faire avec la saison dans laquelle il est impliqué. Jusqu'à maintenant, ça lui rapporte des dividendes.
Le véhicule, l'an passé, tu avais deux gars qui parlaient beaucoup du repêchage. Un gars comme Bouchard, un gars comme Fortier. C'est différent, là, maintenant que ça, c'est derrière eux.
Exactement. C'est un autre... Ils continuent leur développement, mais c'est pas la pression au quotidien de dire OK, bon, c'est le repêchage, je dois bien faire, qui est dans les estrades, où est-ce qu'ils vont me positionner sur la liste. C'est totalement différent. Puis je pense que ça amène un petit peu plus de stabilité dans notre équipe aussi, puis moins de up and down dans notre saison.
Peux-tu déjà parler d'un gros test important le week-end prochain là, avec Rouyn Noranda qui s'en va pour 2 matchs avec Omo?
Ouais, on a eu plusieurs tests, je te dirais, dans la dernière semaine. T'sais, on a joué Halifax, on a joué Drummond, on a joué Rimouski. Fait que pour nous autres, c'est des matchs baromètres. Et puis, c'est sûr que d'affronter les Huskies chez nous, qui est l'équipe de tête présentement dans la Ligue, ça va être un autre test. Ça nous donne une indication aussi sur comment, où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on a à travailler pour continuer à progresser comme équipe.
Merci, Martin.
Merci.
Alors voilà, c'était l'entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau, Martin Bernard, dont le Drakkar a une fiche de 8 victoires, 2 défaites et 1 défaite en bris d'égalité depuis le début de la saison. Donc, ça va être à suivre ces 2 matchs-là en fin de semaine. Rouyn Noranda qui se rend à Baie-Comeau pour disputer 2 matchs. On va avoir une bonne idée là, de la qualité, de la puissance de ces 2 formations. Un mot sur les Moussets de Halifax qui continuent de bien faire également. 2 jeux blancs en fin de semaine. Ils ont 8 victoires, 2 défaites, les Moussets, et ils ont joué leurs 10 premiers matchs à l'étranger. Il leur en reste encore 5 avant de pouvoir finalement entrer à domicile pour amorcer leur saison locale. La semaine dernière, on a glissé un mot du début de saison là, des Chevaliers de Lévis dans la Ligue de hockey Midget 3A. Ben, les Chevaliers poursuivent leur séquence assez phénoménale. Ils ont une fiche présentement de 14 victoires et aucune défaite depuis le début de la saison. Et ce qui est d'autant plus méritoire, c'est qu'ils ont joué 11 de ces 14 matchs-là sur les patinoires adverses. Et là, vont rentrer à domicile pour une séquence un peu plus... stable, si on veut, avec plusieurs matchs à la maison à l'aréna de Charny. Alors, on a décidé cette semaine de parler un peu de cette séquence avec l'entraîneur-chef de l'équipe, Mathieu Turcotte, qu'on rejoint à l'instant au téléphone. Bonsoir, Mathieu. Bonjour, plutôt, Mathieu.
Salut, Stéphane.
Écoute, si je t'avais dit en début de saison qu'après 14 matchs, ça, c'est le tiers de la saison dans la Ligue Midget 3, vous seriez 14-0, est-ce que tu aurais cru ça possible? Est-ce que tu voyais ça possible là, dans le camp d'entraînement et dans les matchs préparatoires?
On savait qu'on avait beaucoup de talent, mais on devait mettre en place une culture qui allait vraiment au mérite, une culture vraiment d'éthique de travail. Donc, on sait tous, avec énormément de talent, ça ne garantit pas grand-chose si on ne travaille pas. Donc, on s'attendait pas nécessairement à 14-0. On savait qu'on avait une bonne équipe, mais on est très content de la façon que les joueurs travaillent en ce moment.
Quand on est dans une séquence comme ça, j'imagine que ça fait boule de neige. Là, on veut que ça se poursuive. On est en confiance. Chaque match commence. Moi, sincèrement, je regardais le calendrier en fin de semaine. Je disais, bon, ils vont affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François. C'est votre plus grande rivalité dans la Ligue. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Bang! 8-0 hier contre le Blizzard. C'est beaucoup de confiance là, que ton équipe semble avoir présentement. Là.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a plusieurs matchs, malgré des victoires, c'était pas des matchs faciles. Vendredi, on a joué contre Jonquière. Ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Ça a été un match difficile. On a eu un excellent départ hier contre le Blizzard. Les joueurs, entre eux autres, ils n'étaient pas très contents de leur performance vendredi. Là, puis ils voulaient vraiment se concentrer sur jouer un bon 60 minutes hier. Donc, non, on a très bien parti ça après 30 secondes. C'est notre capitaine, encore une fois, Nicolas Daigle, là, qui a réussi à marquer un but sur notre premier lancé. Donc, beaucoup d'excellent leadership de sa part, de la part de William Veillette, puis notre groupe de leaders. Là, c'est intéressant de voir.
Quand tu regardes les chiffres et qu'on n'a pas vu de match nécessairement, c'est pas tout le monde qui a la chance de suivre les activités du Midget 3. Vous avez marqué 90 buts en 14 matchs. Alors ça, si mes maths sont bonnes, ça fait une moyenne de 7 buts par match. Vous en avez donné 24 en 14, c'est même pas 2 par match. C'est difficile là, présentement pour vos rivaux là, d'espérer être en mesure de rivaliser avec une puissance comme celle-là. Là.
Oui, exactement. On a il y a plusieurs joueurs là, qui se démarquent offensivement. Souvent là, au nombre de buts qu'on marque ces jours-ci, on oublie que notre défensive aussi fait un excellent travail, comme tu l'as mentionné. On est l'équipe qui donne le moins de buts en ce moment dans la Ligue. On a un style de jeu qu'on met beaucoup de pression sur l'adversaire. On veut passer beaucoup de temps en zone offensive. On veut attaquer le filet. Puis lorsqu'on n'a pas la rondelle, on veut être définitivement l'équipe la plus difficile à jouer contre. Puis en ce moment, on a beaucoup de talent, on a beaucoup de vitesse, mais les joueurs utilisent ce talent et cette vitesse-là aussi du côté défensif de la rondelle, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a du succès en ce moment.
Comme tu le sais, Mathieu, je me promène beaucoup dans les amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et là, on me parle beaucoup de Joshua Roy, qui est présentement au premier rang des marqueurs de la Ligue Midget 3A. Il s'aligne pour ton équipe. Il a 14 buts, 17 passes en 14 matchs. On me dit déjà que c'est peut-être le meilleur espoir de la QV 2019. Si tu nous en parlais un petit peu de ce jeune homme-là.
Un joueur complet, un joueur avec une habileté incroyable, des habiletés incroyables avec la rondelle. Il bouge bien la rondelle, il voit ses coéquipiers, il fabrique des jeux. Autour du filet, il est définitivement un des plus dangereux que j'ai vu là, de son âge. Puis lui, puis Olivier Nadeau, deux joueurs de 15 ans de la Beauce qui jouent ensemble depuis quelques années, se complètent très bien. C'est définitivement un des très bons joueurs de 15 ans que j'ai vu dans ma carrière.
T'as fait le tour de la Ligue. Est-ce qu'on peut déjà dire que ça fait partie peut-être le meilleur espoir de la Ligue déjà pour le repêchage de la GMQ ou si c'est trop tôt encore?
Hein? Un petit peu trop tôt, je crois, mais définitivement, il va être un top 5. Ça, il n'y a aucun doute. Il y a quelques DG en plus là, qui m'ont déjà contacté à son sujet, puis au sujet de plusieurs joueurs de 15 ans, puis même des joueurs de 16 ans. Donc, de ce qu'on me dit, définitivement un top 5. De ce qu'on a vu aussi, c'est ce qu'on pense. Puis le reste, là, ça va être à lui de continuer sur cette lancée.
Le record de la Ligue Midget 3A, c'est 16 victoires en début de saison. Là, je le disais en préambule, vous avez joué beaucoup de matchs sur la route. Là, vous entrez à domicile. En fin de semaine, c'est Laval-Montréal et c'est Trois-Rivières là, qui vont vous visiter. J'imagine qu'on y pense au record, veut pas. Là, on a beau essayer de se dire comme entraîneur qu'on y va une présence à la fois, un match à la fois, mais quelque part, ça doit faire partie un peu des objectifs maintenant qu'on est rendu si près. Là.
C'est certain qu'on y pense. On serait pas humain si on y pensait pas. Mais c'est certain que nous, en tant que staff d'entraîneur, on se concentre vraiment sur le processus. On a une gang de joueurs qui ont remporté 11 matchs l'année passée de suite, puis 14 si on inclut le challenge. Donc, c'est des joueurs qui savent comment se préparer, qui savent comment performer d'un match à l'autre. Fait que c'est pas quelque chose qui leur monte à la tête, évidemment, avec notre séquence. C'est certain qu'eux, ils doivent y penser. Je pense que ça va juste ajouter un petit peu de piquant là, à nos prochains matchs puis à notre semaine de préparation. Donc, on voit ça comme une bonne chose en ce moment.
Puis quand, un peu comme les Mooseheads là, dans la Ligue junior majeure du Québec, beaucoup de matchs à l'étranger sont réglés, ces matchs-là. Là. Alors, vous allez avoir du repos puis moins de voyages aussi. Ça va encore plus aider ta formation là, qui a des stats incroyables en dépit du fait qu'elle a joué seulement 3 matchs à domicile. Là.
Oui, exactement. Ça va nous faire du bien là, de revenir chez nous un peu moins de voyagement. C'est certain qu'au niveau Midget 3, on ne voyage pas autant qu'au niveau junior, mais ça va faire du bien là, d'être chez nous. Malgré notre alignement complet ces jours-ci, on a plusieurs joueurs là, qui traînent des petites blessures. Fait que ça va faire un peu de bien là, de moins voyager puis être chez nous dans les prochaines semaines.
Bon, on va vous souhaiter bonne chance pour le prochain week-end. Tenter d'égaler ce record-là là, de 16 victoires qui appartient aux riverains du Collège Charlemagne. Puis on aura sûrement l'occasion là, de se reparler au cours de la saison. Mais félicitations pour ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Là, c'est assez phénoménal.
Merci beaucoup, Stéphane. Bien apprécié.
Merci. Alors, c'était Mathieu Turcotte, entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3. 14 victoires de suite pour amorcer la saison. Et je le rappelle, 11 de ces 14 matchs ont été gagnés sur les patinoires adverses. Et les Chevaliers, présentement, ont 5 des 6 meilleurs marqueurs de la Ligue. Au sommet, Joshua Roy, 31 points. Nicolas Daigle, 29 points. Olivier Nadeau, 25 points. Sammy Paré, 25 points. Et William Veillette, 23 points au sixième rang. Il y a qu'Alexandre Doucet, des cantonniers de Magog, là, qui s'est inséré là, dans ce top 6 pour briser, si on veut, la domination des attaquants des Chevaliers de Lévis. Le record absolu de la Ligue Midget 3, en passant, c'est 25 victoires de suite. Alors, on n'est pas encore rendu. Mais pour un début de saison, on parle de 16 victoires consécutives. Alors, c'est quelque chose de possible pour les Chevaliers de Lévis. Parlant de la Ligue Midget 3, demain, conférence de presse à Saint-Hyacinthe. On va confirmer que la ville de Saint-Hyacinthe et l'organisation des Gaulois vont recevoir la Coupe TELUS 2020. Donc ça, c'est l'emblème de la suprématie du hockey midget canadien, la Ligue Midget 3A, qui reçoit à chaque 5 ans le tournoi canadien. Alors en 2020, c'est au tour de la Ligue Midget 3A du Québec de recevoir l'événement et ce seront les Gaulois qui agiront à titre d'équipe hôtesse de ce tournoi. Ce sera confirmé demain, donc suivez les reportages à RDS. On va évidemment vous parler de tout ça. La dernière présentation de la Coupe TELUS en sol québécois en 2015, ça avait lieu à Rivière-du-Loup. Alors, en 2020, ce sera à Saint-Hyacinthe, au stade LP Gaucher, qui sera rénové, on va en profiter là, du côté de la ville de Saint-Hyacinthe pour revamper un peu ce vieil amphithéâtre qui a jadis abrité le Laser de Saint-Hyacinthe de la Ligue junior majeure du Québec et qui est le domicile des Gaulois, qui s'appelait avant les Gaulois du Collège Antoine-Giroir. Maintenant, on appelle les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Donc, ce sera une bonne nouvelle qu'on va confirmer demain au niveau de la Ligue Midget 3. Peut-être vous laisser en terminant parler un peu des espoirs du Canadien. En fait, d'un espoir du Canadien qui a bien entrepris à nouveau sa saison, le gardien Caden Primo, qui évolue avec l'Université Northeastern dans la NCAA. Il a gagné ses deux premiers matchs, a réalisé un jeu blanc en fin de semaine. Ça semble, écoute, c'est difficile là, de vraiment avoir une bonne lecture, mais pour un choix de septième ronde, Caden Primo, là, honnêtement, il connaît de très, très bons moments. L'an passé, il a fait partie là, des meilleurs joueurs de la NCAA. D'ailleurs, son nom est mentionné peut-être pour joindre les rangs de l'équipe américaine cette année au championnat mondial de hockey junior. Il sera assurément en lutte pour un poste. Alors, c'est un autre bon début de saison pour Caden Primo du côté des universités américaines. Pour ceux qui suivent, évidemment, on a beaucoup entendu parler là, en raison de cette transaction là, avec Las Vegas de Nick Suzuki qui est retourné avec l'attaque d'Owen Sound. Suzuki qui connaît un début de saison, je dirais, correct avec Owen Sound. Il a 8 points en 7 matchs depuis le début. Lui qui, au cours des deux dernières années, a récolté 96 et 100 points. Alors, il a 3 buts, 5 passes en 7 matchs jusqu'ici, Nick Suzuki, avec l'attaque d'Owen Sound. On aura sûrement l'occasion de lui parler très, très prochainement dans le cadre de notre balado sur la glace qui vous est présenté comme ça à chaque semaine. Alors voilà, ça fait un peu le tour de notre présentation cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Alex Belzile du Rocket de Laval qui s'est prêté au jeu de notre balado. Mathieu Turcotte également des Chevaliers de Lévis. Martin Bernard que j'ai rencontré hier à Rimouski, entraîneur-chef de Bécomont. Luc Dansereau à la technique. Et je vous dis au revoir et on se reparle la semaine prochaine.